Nous prenons la parole dans Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5. Au verset 24. Jésus dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je recommence. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, il y a un mot qui sera le sujet de notre prédication, c'est la vie. Et lorsque nous lisons ce texte, il est dit que ceux qui écoutent passeront de la mort à la vie. Mais comment peuvent-ils écouter alors s'ils sont morts? Donc ça veut dire que la vie n'a pas le même sens selon la personne qui emploie ces termes. Jésus dit clairement, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il y a des gens qui peuvent être vivants, mais pour Dieu, sont considérés comme morts. Ce qui est important, c'est la vie selon la logique de Dieu, non pas la vie selon la logique de l'homme. Il y a beaucoup de passages comme ça qui parlent de la vie. Lorsque nous lisons dans Jean 20, 30, 31, il est écrit ceci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est écrit encore là. En croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, il y a des gens qui doivent croire pour recevoir la vie. Donc, ces gens-là, avant, n'avaient pas la vie. Mais pourtant, physiquement, ils étaient bien vivants. Et nous lisons dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Là maintenant, Jésus parle à des chrétiens, à une église. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc là, il est question des chrétiens. Parce qu'on peut dire, bon, c'était les païens à qui étaient adressées les premières paroles. C'était nous quand nous étions inconvertis. Mais là, il est question d'une église. Jésus dit, tu passes pour être vivant. Il est question des chrétiens. Vous passez pour être vivant. Jésus dit, vous êtes mort. Donc il y a un concept par rapport à le concept de la vie n'est pas le même eu égard à la personne qui en parle. Lorsqu'on dit vie, dans le monde normal, on sent l'activité. Un être vivant, c'est un être qui a de l'activité à son intérieur. C'est ainsi qu'on dit que les pierres ne sont pas des êtres vivants. Parce que en elles-mêmes, elles n'ont pas de l'activité. On peut leur procurer une activité, mais ça viendra de l'extérieur. Donc, un être vivant, c'est un être C'est une créature qui a de l'activité intrinsèque en elle-même. Cette créature-là a de l'activité. Et c'est comme ça que nous nous considérons ce qui est vivant, et nous différencions ce qui est vivant de ce qui est mort. Mais Dieu ne voit pas les choses ainsi. Pour nous, la vie, c'est la respiration. Pour nous, la vie, c'est marcher, c'est parler. Pour nous, la vie, c'est produire des choses. Mais pour Dieu, ce n'est pas la même chose. La vie, selon Dieu, c'est l'éternité. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dans Jean 5, 24, il est passé de la mort à la vie. La vie, selon Dieu, c'est la vie éternelle. La vie que lui-même donne, qui va aller d'éternité en éternité. La vie, selon Dieu, c'est le salut. Quelqu'un qui n'est pas sauvé n'a pas la vie. Il est mort. Il se croit vivant parce qu'il bouge. Mais le coq ou la poule aussi, qui est prête à être abattue pour être vendue dans le supermarché, une heure avant, se croit aussi vivant. Mais en réalité, il est sur le rouleau, le tapis qui est en train de l'amener vers la mort. Lui, il croit faire un beau voyage, mais il est sur le tapis qui l'amène vers la mort. Donc, s'agiter, bouger, faire des choses, ce n'est pas ça la vie, selon Dieu. Selon Dieu, la vie, c'est le salut. C'est pour savoir qu'on est sauvé. C'est ça la vie. La vie, selon Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'action de l'homme. L'action de l'homme finira par être consumée. La Bible nous en parle dans 1 Corinthiens 3. On peut être chrétien, on fait des grandes actions. Mais si ce ne sont pas des actions poussées par le Saint-Esprit, lorsque le jugement viendra, ces actions-là, ces actes-là, la Bible dit, seront consumés dans le feu. La vie, selon Dieu, c'est sa nature. La paix, la joie, le repos, l'assurance, la quiétude. Il y a des gens qui bougent. Vous savez, comme les lièvres ou les lapins. Ils sont sans cesse agités, mais ils n'ont pas la paix. Ils sont en train d'imaginer l'ennemi peut venir de gauche ou de la droite. Donc, ils sont tout le temps agités, mais ce n'est pas la vie, ça. Les gens qui se promènent avec 100 gardes du corps. On voit les vedettes de cinéma, parfois, comment ils ont peur. Il y a des gens qui ont des alarmes sophistiquées chez eux parce qu'ils ont peur. Ils bougent, ils ont une belle maison, mais ils ne profitent pas de cette maison-là. Ils ne sont pas dans le repos dans cette maison-là. La vie, c'est le repos. La vie, c'est la paix, c'est la joie. Il y en a qui ont des belles voitures, mais ils n'en profitent pas. Il se pose des questions. L'attentat viendra d'où? Bien-aimé, la vie, ce n'est pas ce qu'on peut faire comme action, mais c'est la paix, l'éternité, l'amour. La vie, ce n'est pas amasser. Il y a des gens qui entassent des choses. Mais à force d'entasser, d'amasser, ils ont peur que ça diminue. Les gens qui sont simples, lorsqu'il y a eu la crise économique, ils n'ont pas senti ça, puisqu'ils sont habitués à vivre simplement. Mais ceux qui sont habitués à vivre dans les yachts, ceux qui sont habitués à faire, comment dire, des fêtes dans les hôtels 5 étoiles, eh bien, quand la crise est venue, eh bien, ils sont obligés de changer de vie. Et beaucoup se suicident. Ils pensaient avoir les moyens, ils pensaient avoir la vie, mais ils n'ont pas la vie. Ils sont morts. Et leur mort, quand elle arrive, ça témoigne qu'ils étaient sur le tapis roulant de la mort. La vie n'a pas le même sens selon la personne qui en parle ou qui réfléchit sur elle. Mais qui est le véritable juge? Qui est celui qui peut nous donner la bonne définition? C'est Dieu. Qui est celui qui peut nous éclairer? C'est Dieu. Puisque lui, il a la vie. Il est éternel. La vie, c'est lui-même. C'est pourquoi Dieu rigole quand il voit des gens s'agiter. Il dit, les royaumes s'agitent, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Mais le peuple de Yahvé est toujours dans la paix, parce que c'est Dieu qui a la vie dans sa main. Jésus a rencontré une femme qui lui a dit, à qui il a demandé de l'eau. La femme a dit, mais Tu me demandes de l'eau, tu es juif. Jésus a dit, mais si tu savais qui est celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et l'eau qu'il te donnera deviendra une source de vie en toi. Jésus a la vie. Ce n'est pas, bien-aimé, l'argent, ce n'est pas le succès de l'humain, mais c'est Dieu qui donne la vie, parce que lui-même est la vie. La Bible dit, dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui donne la vie. C'est ça mon thème, Jésus, la véritable vie. Ce n'est pas quand on respire qu'on a la vie. Ce n'est pas parce qu'on court très vite qu'on a la vie. Ce n'est pas parce qu'on a du succès qu'on a la vie. Parce que si c'était ça la vie, beaucoup de gens ne se suicideraient pas comme on voit aujourd'hui. Beaucoup de jeunes se suicident. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils se suicident pourtant. Ils sont pleins de vie physiquement parlant. La vie, c'est la paix. À quoi ça sert de bouger si c'est pour pleurer à tout moment? La vie, c'est la joie, c'est le repos, c'est l'assurance. La vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui la donne. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé, comment on a souffert quand on était païen, à vouloir être au top dans les vêtements, à vouloir être au top dans la beauté physique, à vouloir être le premier à l'école, à vouloir avoir le meilleur travail. Comment on a souffert? On évitait certaines rues parce qu'il y avait des gens qui nous détestaient, parce qu'on était en conflit. Combien on a souffert? Esclaves de beaucoup de péchés. Et le jour où tu rencontres Jésus, comme ce jour-là, quand j'ai été invité dans... Mais j'étais un simple touriste, j'étais parti par curiosité. Et comme on était étudiant, en général, quand on nous invitait comme ça dans les endroits religieux, après ça, il y avait un repas ou un chocolat chaud. Donc on y allait aussi un peu pour cela. Bien, ce jour-là, bien-aimé, j'ai rencontré la vie. Quand ces gens-là chantaient, quand Jésus remplit un cœur, tu n'as plus envie de chocolat chaud. Tu es rassasié, bien-aimé. Tu es rassasié. Jésus dit, moi, je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Celui qui me mange n'aura plus faim. Tu es rassasié. Tu n'as plus envie d'autre chose. Tu es arrêté, bien-aimé. J'ai l'habitude de dire que Jésus, c'est le terminus. Quand tu arrives là, tu sens que c'est fini. Tu es arrêté. C'est comme quand je mange un bon fruit. J'ai l'impression qu'on ne doit plus ajouter quelque chose. Vous savez, tu peux être invité dans les meilleurs des restaurants, tu peux toujours supposer qu'il y aurait dû avoir un peu plus de telle chose, un peu moins de telle autre chose. Mais quand tu manges une bonne pêche, une bonne banane, tu as la sensation de la satiété. C'est suffisant, c'est fini. Il n'y a rien, il n'y a aucun autre ingrédient à ajouter. C'est complet. C'est ça, Jésus. Quand tu arrives à Jésus, c'est le terminus. Les restaurants ne te disent plus rien. Le succès ne te dit plus rien, parce que tu as Jésus. Nous allons lire Luc 8, au chapitre 26. La Bible dit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les tombeaux. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur donner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. C'est la vie. Cet homme-là était enchaîné. Il était enchaîné dans les cimetières, il vivait dans les cimetières. Il criait, c'était devenu un vrai fou. Mais Jésus-Christ passait par là. Jésus-Christ lui donne la vie. Il se réveille. Bien-aimé, c'est comme si on s'est réveillé. Il s'est réveillé et il s'est habillé. C'est ce que Jésus appelle mort. Tous ceux qui se croient forts, tous ceux qui se croient quelqu'un, ils sont comme morts. Dieu les appelle morts. Ils ont besoin d'être réveillés pour se rendre compte de leur état et d'être habillés par le Seigneur. Jésus dit, quiconque va s'humilier pour m'écouter et qui va croire, il va passer de la mort à la vie. Il va se réveiller. On a besoin de se réveiller. Et ce jour-là, quand j'ai entendu ce chant, j'ai été réveillé. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de supérieur à la nourriture, quelque chose de supérieur à la débauche, quelque chose de supérieur aux études, quelque chose de supérieur au succès. C'était le Seigneur Jésus. Ce jour-là, bien-aimé, ce démoniaque s'est réveillé. Il s'est rendu compte qu'il était faible. Moi, j'étais très orgueilleux. Je me croyais plus intelligent que tout le monde. Mais le jour où j'ai lu les évangiles, j'ai senti Jésus, non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui est supérieur, mais qui te repose. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai trouvé le plus fort. Le plus bon, c'est Jésus, le plus intelligent. Jésus est la vie, c'est le terminus. Mais quand on refuse Jésus, quand on est très attaché, je dirais plutôt quand on est très attaché aux choses de la terre, quand on est esclave des choses de la terre, et quand en plus on est orgueilleux, on ne veut pas donner la place à Dieu pour l'entendre, pour l'écouter, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? On chasse Jésus. Ces hommes-là, ils étaient attachés à leur élevage de porcs. Eh bien, puisque les porcs ont été noyés, ils ont dit, Jésus, nous ne voulons pas de nous. S'il faut que tu viennes noyer nos porcs, on ne veut pas de toi. Et quand on est dans l'orgueil, quand on est attaché à soi-même, on a peur de Jésus. On dit, il va venir troubler ma vie. Il va venir éloigner la cigarette de moi. Il va venir éloigner la débauche de moi. Il va venir briser ma jeunesse. Moi, je suis encore jeune. Je peux encore faire des choses. Je me convertirai peut-être à 45 ans, mais qu'on me laisse. Et il y en a qui disent, bon, en attendant, Jésus ne vient pas encore. J'attends 45 ans. Est-ce que tu sais si tu arriveras à 45 ans? Ceux qui sont trop attachés aux choses de la terre et qui sont orgueilleux rejettent Jésus. Nous étions tous attachés aux choses de la terre. Mais un jour, on a goûté à Dieu. On a vu, senti qu'il était bon. On s'est arrêté là. Beaucoup ont déjà goûté. Ils sentent que Dieu est bon. Mais ils sentent aussi que Dieu va les amener dans un chemin nouveau. Ils sont trop attachés à leur bien. Ils sont trop attachés à leur succès, trop attachés à leur corps. Alors ils préfèrent dire Jésus, pas pour le moment. Pas maintenant. Laisse-moi encore profiter. Mais profiter de quoi? Profiter de quoi? Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en train de manger un gâteau. Il sait qu'il y a un microbe dangereux dedans. Mais il a fait semblant de ne pas le savoir parce que le gâteau est très bon. Et quand vient la maman, ou quand vient le papa, ou quand vient la personne qui connaît mieux ce qu'il y a à l'intérieur du gâteau, la personne dit, non, écoute, on parlera après. Laisse-moi finir d'abord le gâteau. Parce que si on m'explique qu'il y a tel microbe, je vais arrêter. Mais bien-aimé, tu veux arrêter quoi? Ton plaisir. Mais tu as actionné la roue de la mort. Tu es conscient que ce que tu es en train de faire, ça va te donner du plaisir. Mais tu es aussi conscient que tu es en train de bâtir ta mort. Comme on dit en français, tu es en train de creuser ta propre tombe. Qui sait quand ça s'arrêtera? Qui sait? On peut faire 40 ans, 30 ans de succès. Nous avons vu Michael Jackson, hein? Succès planétaire, comme on dit. Mais un jour, tu perds tout cela parce que tu avais creusé le chemin de la mort. Il a signé des contrats avec des démons très puissants. Ces démons-là, quand on signe des contrats avec eux, il y a un temps où ils vont te servir. Et il y a un temps où toi, tu dois les servir maintenant. Et c'est ça la mort. Et quand le temps est arrivé que Michael maintenant serve ces démons-là, c'est le chemin de la mort qui a commencé. Bien-aimé, c'est la même chose pour nous tous. Ce que tu fais là, qui en dehors de la parole de Dieu, est en train de t'amener petit à petit à la mort. Mais puisqu'aujourd'hui, ça te donne un certain plaisir, tu t'attaches à ça. Et tu dis, Jésus, on verra ça prochainement, mon changement. Ma repentance, on verra prochainement. Ma correction, on verra prochainement. Pour le moment, j'aime trop être orgueilleux. Pour le moment, j'aime trop être chef de moi-même. On verra plus tard. Bien-aimé, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assise. C'est ça, les choses de la terre. Elle donne du plaisir au moment où nous les consommons, mais elles sont en train de nous construire pour la mort. Elles sont en train de nous préparer pour la mort. Et c'est regrettable. Nous lisons dans Luc 16. À partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Voilà ce qui est dit. Hein? Joyeuse et brillante vie. Bien-aimé. Nous ne sommes pas en train de dire que quand tu seras dans la discothèque, tu seras triste. Non, on ne dit pas ça. C'est joyeuse et brillante vie. Parfois, on réclame encore le même chant. Joyeuse et brillante vie. Nous lisons la suite. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Abraham est clair. S'ils n'écoutent pas la parole, ils ne se laisseront pas persuader, même si on montrait le film du paradis. Dieu peut faire un film sur le paradis. On peut le voir chaque dimanche. Mais du moment que quelqu'un est attaché aux choses de la terre et dans l'orgueil, il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Puisque c'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, ce n'est pas un film. C'est la parole de Dieu qui est son propre fils. Eh bien, cette personne-là ne changera quand même pas. Je cite cet exemple pourquoi. Jésus lui-même reconnaît que la vie de l'homme riche pouvait sembler agréable. Jésus n'est pas en train de dire que, puisque je vais citer les autres cas, mais on peut toujours se retrouver dans les cas où, pendant qu'on boit son whisky, on se sent bien. Pendant qu'on est en train de tromper sa femme, on se sent bien. Pendant qu'on est en train de critiquer, d'injurier, de faire des coups bas pour prendre le poste de quelqu'un, on se sent bien. Ça peut arriver. Jésus ne nie pas cela, mais Jésus dit, mais toi, tu as connu une joyeuse et brillante vie. Maintenant, là, tu souffres. Alors que Lazare, il est consolé. Il est consolé. Pendant que tu trichais à l'école, tu étais content. Mais lorsqu'on a montré le film, vous vous souvenez du rugbyman français, hein, en Australie? Il est revenu avec des blessures, il a dit à l'entraîneur, les Australiens m'ont tapé dans une rue. Lorsque je marchais, donc, ça veut dire que le public australien, puisque c'était un Français, ils ont eu match avec les Australiens, on l'a tapé. Là, il s'est bien justifié, il était bien. C'est passé. Mais malheureusement, on avait filmé son retour à l'hôtel. Et à son retour à l'hôtel, eh bien, il était normal, il n'avait pas de blessures. Donc, et malheureusement, à son retour, il n'était pas seul. Il était avec une femme qui ne venait pas de France, bien sûr. Et cet homme a été confondu par les caméras. Quand il a menti, les entraîneurs ont applaudi. On dit, ah, voilà, les Australiens sont jaloux des Français, ils ont tapé un joueur français. Quand il a menti, c'est bien passé. Mais quand on a remis le film, c'est là que la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Cet homme a été humilié. Toute la presse a repris cela. S'il n'avait pas menti, s'il avait dit juste « J'ai eu une soirée arrosée avec des filles légères. » Bon, il aurait reçu une blâme de l'entraîneur. Mais là, maintenant, il y a une blâme de toute la nation française. Toute la nation française a vu ce qu'il a fait. Ses parents ont vu, parce que ses parents ne seraient pas au courant. Ça serait limité à l'équipe, avec l'entraîneur. Mais il a voulu mentir. En mentant, il a eu un jour de joie, un jour de paix. Mais c'était une paix qui était en train de construire une vraie chute, une vraie souffrance qu'il a connue pendant plusieurs jours. C'est la même chose que nous voyons ici. On peut se sentir à l'aise dans la bêtise. On peut se sentir heureux, joyeux dans la bêtise. Mais nous sommes en train de construire de longs moments, de très longs moments de souffrance. De très longs moments de souffrance. Autant recevoir la vie, bien-aimée. Autant recevoir Dieu. Nous avons vu que la vie, selon nous, ce n'est pas ça la définition de Dieu. Dieu a sa propre définition de la vie. La vie, c'est sa nature. La paix, la joie et l'assurance du salut. Tu sais que, quoi qu'il arrive, je suis destiné au paradis. Je vivrai éternellement. Il n'y aura pas de canicule, ni d'hiver compliqué. Pas de crise économique, plus de séparation, plus de deuil, plus d'injustice. C'est cette vie éternelle-là. Jésus dit, je suis la vie. Bien-aimé, quand on voit clairement, on se penche sérieusement, parce que parfois, on est toujours à la surface. Mais penchons-nous sérieusement sur les problèmes de l'humanité. Nous verrons que beaucoup n'ont pas la vie, ils n'ont pas la joie. Faites un séjour à l'hôpital, vous allez comprendre cela. Vous allez voir beaucoup de gens esclaves des maladies, bloqués par des maladies. Mitterrand, dès qu'il est devenu président, tout de suite, il a été annoncé qu'il avait le cancer. Il était président. Mais avec le cancer, pendant longtemps, il a traîné le cancer. Pendant très longtemps. Est-ce que c'est ça la vie, bien-aimé? Nous voyons bien que quelqu'un peut avoir ce titre-là, mais être embêté par une maladie. Il y a des moments où tu es bien, un bon compte bancaire, mais un examen médical annule tout cela parce qu'on découvre le diabète, on découvre telle chose de négatif, bien-aimé. On se rend compte que la vie, ce n'est pas seulement l'argent. La vie, c'est aussi être en bonne santé. Il y a des moments où on est en bonne santé, mais on a des problèmes de famille. On se retrouve avec un enfant qui fait la délinquance. Donc on se rend compte que la vie, ce n'est plus seulement la bonne santé, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi être en paix. On peut avoir beaucoup de moyens, beaucoup de richesses. Après, on se retrouve à avoir peur que ces richesses s'en aillent. On se souvient de la fable de la fontaine. Un homme qui était paysan, l'autre il était, financier. Ils se sont changés de place. Et dès que le paysan est devenu financier, il a commencé à vivre mal à l'aise. Il avait tout le temps peur qu'on lui vole son argent. Il a dit, monsieur, reprends tout ton argent, reprends ton boulot de financier. Moi, je veux faire le champ, faire ma vie tranquillement, sans avoir peur, quoi. Bien-aimé, c'est là qu'on se rend compte que la vie, ce ne sont pas les moyens. Parce que ces moyens-là te donnent encore la peur. Quand on a une voiture qui se débrouille, mais on n'a pas peur qu'on oreille la voiture. Hein. Mais quand on a une voiture qui a coûté 35 000 euros, hein, mais on surveille. Hein. Dès qu'on apprend qu'il y a eu rayure, mais on cherche qui a fait ça. Mais quand on a des trucs de 15 ans d'âge, ben même si on raye, après tout, bon, ça va, on est bien aimé. C'est pour montrer que le bien de ce monde ne donne pas le bonheur. C'est vraiment la paix de Dieu, quoi. Quand tu as la paix de Dieu, tu es juste, tu sais que le salut t'attend. Tu sais que même si on raye ma voiture, au ciel on ne rayera pas des voitures. Tu es tranquille. Tu attends les choses du ciel. Abraham, la Bible dit qu'il attendait la cité du ciel. On lui avait promis des choses sur la terre. Il ne les voyait pas clairement, mais il savait qu'il les verrait au ciel. Bien-aimé, c'est ça la vie. La vie, c'est l'éternité. Parce que la mort vient mettre un point final à beaucoup d'espérances, beaucoup de projets. Regardez, Jackson, excusez-moi d'insister sur lui, comme il a fait beaucoup de succès, nous aussi on insiste, bien-aimé. Il devait faire des concerts qui allaient réunir le plus grand nombre de personnes. Mais le projet a été arrêté comment? À cause de la mort. La mort vient mettre un terme à tout ce que l'homme peut considérer comme vie, tout ce qu'il peut considérer comme bonheur. La mort vient mettre un terme à cela. C'est pourquoi Dieu appelle les gens qui n'ont pas, qui ne se sont pas donnés à lui, il les appelle morts, parce qu'il sait que tôt ou tard, la mort mettra un terme à leurs projets. Tôt ou tard, la mort mettra un terme à leurs ambitions. Tôt ou tard. Donc Dieu les considère comme morts. Mais ceux qui se confient en lui, Dieu les considère comme vivants. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce qu'ils sont vivants. Il les considère vivants, parce que la mort ne mettra pas fin au projet de Dieu pour eux. Alors que la mort met fin au projet des humains. La vie, ce n'est pas ce que nous voyons. La vie, c'est Dieu, c'est ce que Dieu donne. C'est ça la vie, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la vie. Tout ce que les humains font, qu'ils soient chrétiens, parce que je cite aussi les chrétiens, beaucoup travaillent pour eux-mêmes, beaucoup bâtissent pour leurs propres ambitions. Tout ce qu'ils font qui ne concerne pas Dieu, qui n'est pas motivé par Dieu, par l'amour de Dieu, qui n'est pas impulsé par le Saint-Esprit, tout cela, c'est la mort. C'est comme si tu te construisais ta tombe. Un jour, on te cueillera par l'ennemi. Il te laisse grandir. Il crée en toi la soif de l'argent. Il crée en toi la soif de la fausse liberté, du libertinage. Il crée en toi la soif du pouvoir, la soif des vêtements. Ça commence petit à petit. Ça monte. Et quand tu es mûr, il vient te cueillir. On va apprendre seulement qu'il y a une telle personne qui a volé un costume dans un magasin. Mais c'est qui? C'est lui, mais oui. Ça a pris 10 ans au diable pour l'amener à faire cela. Lui communiquer d'abord l'envie des vêtements, l'envie de la mode. Petit à petit, ça vient. Bien-aimé, petit à petit. Et après un jour, on apprend qu'il y a un dégât qui a été fait. Ça commence comme cela. Le diable déroute les gens petit à petit, comme on nous a appris le vendredi. On te dit, l'homme n'a pas été créé, c'est l'évolution. Petit à petit, tu commences à recevoir des fausses théories sur Dieu, mais tu es en train de scier ton arbre, la branche sur laquelle tu es assise. Tu es en train de scier cela. Tu es en train de construire ta mort. Et lorsque la mort physique vient, tu te retrouves devant le jugement comme cet homme-là. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'étais pas au courant. Si tu es au courant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas vu que les hommes étaient malheureux malgré leur richesse, malgré leur argent? Les gens qui travaillent dans les entreprises, est-ce que les gens sont heureux là-bas? Ils ne sont pas heureux. Il y a la pression. Il y a la peur du licenciement. Là, on a vu des gens, les New Fabrice, à qui on a donné 12 000 euros en plus des indemnités légales. Mais la dame, elle était encore en train de pleurer, de dire, on est perdu, on n'est rien du tout. Parce que sa vie dépend de son salaire. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous dire, il y a une vie qui ne dépend pas de l'argent, une vie qui ne dépend pas de la beauté, une vie qui ne dépend pas du succès, une vie qui ne dépend pas des humains, c'est la vie du ciel. C'est pourquoi Jésus a eu le courage d'envoyer ses disciples sans argent en disant, allez sans argent, sans bourse ni sac, parce qu'il était conscient qu'il allait procurer la vie dont ils avaient besoin chaque jour. Et cette vie-là inclut les biens matériels. Mais c'est une vie qui n'est pas matérielle, mais ça produira du matériel. C'est une vie qui vient d'en haut. C'est la véritable vie qui fait que des gens comme Watchman Nee étaient contents d'être en prison. Cette vie qui fait que Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, ils ont chanté les louanges du Seigneur et la prison s'est cassée. C'est la vie du Seigneur. Malgré les souffrances, on a cette vie-là. Et cette vie-là ne va pas s'arrêter là. Elle va nous amener au ciel. On sera déjà heureux sur terre parce que nous ne dépendons pas des choses de la terre. Il y a un passage même dans 1 Corinthiens qui dit que celui qui est marié vive comme s'il ne l'était pas. Ça veut dire quoi? Que tout chrétien doit dépendre du ciel pour son bonheur. Lorsqu'il commence à dépendre des choses de la terre, même si elles sont bonnes, cette dépendance n'est pas voulue de Dieu. La dépendance doit être du ciel. Et après, comment Dieu s'exprime? Il peut s'exprimer à travers les enfants qu'il te donne. C'est une joie. Il peut s'exprimer à travers le mari qu'il te donne. C'est une joie. Il peut s'exprimer à travers le salaire que tu reçois au travail. C'est une joie. Mais ce sont des cadeaux de Dieu. Tu dois les considérer comme des cadeaux de Dieu, non pas comme des objectifs, non pas comme des solutions. La solution reste Dieu. La vie, c'est Dieu lui-même. Vous savez, ce verset de Jean 5, 24, pourquoi je l'ai encore beaucoup plus retenu? Parce que j'ai lu une histoire sur ce verset-là, Jean 5, 24. Il y a une femme qui avait, il y a 3 siècles, assisté à une prédication et l'homme avait donné ce verset-là. C'est lui. Le prédicateur avait parlé de ce verset-là. Celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie. Il était mort, maintenant il devient vivant. Et cette femme a cru à ce verset-là. Et puis elle est rentrée chez elle. Elle avait écrit ça sur un papier. Quand elle est rentrée chez elle, devant la réalité, vous savez, il y a des moments où tu entends la prédication, à l'église tu es content, mais quand tu rentres chez toi, la réalité te rattrape. Devant la réalité difficile qui l'attendait à la maison, devant les complications qui l'attendaient à la maison, la tristesse est revenue sur elle. Et puis, son jeune fils, son très jeune fils, qui avait vu le papier, a ramené le papier à sa maman. Il dit, « Maman, mais pourquoi tu es triste? La phrase n'a pas changé. Elle est toujours la même. » Et cette mère a relu le verset. « Celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie. » Elle a retrouvé des forces, bien-aimée. La phrase n'a pas changé. Tu peux te réjouir parce que tu reçois la vie en Jésus. La phrase n'a pas changé, bien-aimé. La réussite professionnelle, ce n'est pas ça la vie. Nous qui avons vécu un certain temps, nous avons vu des transformations en informatique. Il y a eu des temps où c'était le langage COBOL, ce langage de ce genre-là qui était en vogue. Et puis, 3 ans après, tout ce qui faisait du COBOL s'est dépassé. Il faut apprendre autre chose, bien-aimé. Attention, la vie, c'est Dieu. Dieu permet que, quels que soient les modes, tu es toujours là. Les nations s'agitent, le royaume s'ébranle, mais le peuple de Yahvé est toujours là. Quels que soient les modes scientifiques, quels que soient les modes dans le monde économique, quels que soient les modèles, le peuple de Yahvé survit toujours. C'est lui qui a la vie, bien-aimé. Bien des chrétiens sont tourmentés parce qu'ils cherchent la vie dans la réussite du ministère, dans la réussite matérielle. Et les églises américaines font beaucoup d'argent parce que il y a même des pasteurs qui sont devenus des coachs. On les paye pour essayer d'aider les gens à être bien matériellement, professionnellement, maritalement. Bien-aimés, ce n'est pas ça la vie. La vie, ça vient du ciel. Et quand tu reçois cette vie qui vient du ciel, c'est toi qui vas la communiquer. Celui qui reçoit la vie de Dieu n'exige rien des autres. C'est lui. Il a reçu de Dieu pour donner aux autres. Mais ceux qui sont tout le temps en train de se plaindre des autres n'ont pas reçu la vie de Dieu. Quand on reçoit la vie de Dieu, on est rassasié. Est-ce que si vraiment tu es rassasié autour d'une table, tu vas encore prendre le plat de l'autre? Ben non. Au contraire, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu ne veux pas mon dessert parce que moi je suis déjà rempli là? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu ne veux pas mon jus parce que moi je n'ai plus de place, je suis rassasié? C'est ceux qui reçoivent la vie de Dieu. Ils sont rassasiés. Alors c'est eux qui proposent aux autres. Est-ce que tu ne veux pas que je t'aide? Est-ce que tu ne veux pas que je subisse ta méchanceté? Les gens sont là. Oh, il est méchant, oui, mais la vie, ce n'est pas lui qui va te la donner. Ah oui, les Français sont durs, mais oui, mais ce n'est pas eux qui vont te donner la vie. La vie vient du ciel. Quand tu vas la recevoir, c'est toi qui vas penser à ces gens-là qui sont mauvais pour leur donner la vie. Quand on reçoit la vie de Dieu, on ne se plaint pas des autres. La Bible dit l'amour aime à tout moment. Il supporte tout puisque tu reçois la vie. La vie, c'est l'amour, bien-aimé. Tu excuses les autres, tu pardonnes. Parce que toi, tu as déjà la vie, tu es rassasié. Il n'y a que quelqu'un qui est affamé qui peut réclamer sa part. Vous dites, mais oui, mais vous avez coupé le gâteau d'une manière inéquitable. Mais quelqu'un qui est rassasié, même si on a coupé d'une manière inéquitable, il n'a plus faim. Qu'est-ce que ça lui fait? Bien-aimé, quand tu as la vie de Dieu, tu es rassasié. La Bible dit que tu es planté dans la maison de Dieu. Tu ne t'agites pas parce que tu es planté. Un arbre ne s'agite pas, il est planté. Il n'y a que les feuilles mortes qui s'agitent. Wow. Vous le retrouvez à Rue d'Elbeuf. Après 2 jours, paf, il se retrouve à Saint-Sever. C'est les feuilles mortes. Mais les arbres qui sont plantés sont tranquilles. Ils ont la vie. C'est la vie que Jésus propose. Il dit, je suis la vie. Quand tu me reçois, tu arrives au terminus. C'est la vérité, bien-aimé. La vie, c'est la marche avec Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il te soutient. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. D'ailleurs, nous sommes tous des humains. Nous sommes conscients des réalités humaines. Il y a des gens qui fouillent leur maison parce qu'ils savent que là-bas, il va retrouver quelqu'un qui va l'embêter. Il y a des gens qui sont en dépression. Le fait de penser à aller au travail, parce que là-bas, ils vont retrouver un patron qui va les embêter, qui va les faire souffrir. La vie, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. C'est la grâce de Dieu. Quand on la reçoit par la foi, en la parole de Dieu. Quand on croit à sa parole, on reçoit cette vie-là. Et on est satisfait. On sait que Dieu s'occupera de tous mes besoins. On sait qu'il a prévu ce qu'il faut pour demain. Tout ce que nous on fait en ce moment-là, c'est prier pour garder nos cœurs remplis de foi. C'est prier pour garder nos cœurs en communion avec lui afin que nous comprenions ces choses-là. Dieu sait bien qu'un païen ne peut pas comprendre cela. C'est pourquoi il a prévu la nouvelle création. Quand on se convertit à lui, il te crée de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature capable de réaliser la vie surnaturelle, capable de saisir cette vie surnaturelle et de dominer sur l'homme charnel. C'est ça la nouvelle naissance. Tu commences à avoir goût à l'amour, goût à la paix, tu commences à avoir goût à la joie, goût à aider les autres. Ta joie vient du fait que tu aides les autres, ta joie vient du fait que tu aimes les autres. Ta prière, ce n'est plus « Seigneur, donne-moi une voiture », mais « Seigneur, aide-moi à aimer tout le monde ». Vous vous souvenez du témoignage de Khalid qu'on avait vu ici, le terroriste musulman d'Égypte. Il voulait tuer les chrétiens. Il voulait faire des attentats dans les églises chrétiennes. Mais il était très, très intelligent, très intellectuel. Et son chef lui a donné comme travail d'écrire un livre qui va contredire la Bible. Donc pour cela, il fallait qu'il lise la Bible et qu'il fasse ce livre-là. Il a refusé parce que c'était quelqu'un d'antichrétien. Il a dit, je ne veux pas lire ce mauvais livre-là. Son chef a dit, c'est un ordre, tu dois faire ce lire pour pouvoir le contredire. Il a commencé à lire la Bible. À force qu'il lisait la Bible, il ne trouvait pas de contradiction. Il trouvait que c'était agréable. Alors il s'est dit, mais si la Bible est si agréable, je suis un spécialiste du Coran. Je sais que les deux livres se contredisent. Donc il y a un livre qui a raison, un livre qui a tort. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Maintenant, je vais faire une bonne étude du Coran. Et il a commencé maintenant à faire maintenant le livre. Son livre, c'était plus « Est-ce que la Bible est vraie ?» Son livre, c'était « Est-ce que le Coran est vrai ?» Parce qu'il avait déjà eu la conviction que la Bible était vraie. Maintenant, il restait à vérifier est-ce que le Coran était vrai. Et son chef l'a surpris. Il était dans la salle de bain, son chef est entré dans sa chambre. Il a vu que c'était le livre avait changé de titre. Il a voulu le tuer, il a échappé. Et ce jour-là, le lendemain de ce jour, il s'est converti à Jésus. Alors, quand on voit ce film-là, qu'est-ce qui est vu? Qu'est-ce qui est montré? Quand il s'est converti le matin, il s'est promené dans les rues. Il a embrassé tout le monde. Il a embrassé le clochard. Tout était devenu beau. Un clochard était devenu beau. Un mendiant était devenu beau pour lui. Tout était beau. Il commençait à aimer tout le monde. Il embrassait tout le monde. Il dit que tout était devenu clair, beau. C'est ça la vie de Dieu. La vie de Dieu fera que le voisin le plus méchant, tu le considères comme beau et bon, quoi. Le voisin qui ne te répond pas quand tu lui dis bonjour, quand tu reçois la vie de Dieu, tu vas dire, bon, je vais me faire encore éconduire, mais bon, je vais lui dire bonjour. C'est beau d'aimer les méchants. C'est plus bon que la choucroute. Hein? Aimer les méchants, bien aimé, c'est plus bon que le poulet rôti, c'est plus bon que tout ça. Quand tu commences à aimer les méchants, tu as l'impression que tu manges quelque chose de bien, quoi. D'extraordinaire. Mais tu ne trouveras pas ça dans un restaurant. Hein. Mais tu ne trouveras pas ça que chez Jésus. Aimer les méchants. Bien-aimé, moi, le jour où, dans un songe, dans une vision, j'ai prié pour un dictateur, ça m'a transformé, quoi. J'étais dans la joie. Parce que j'avais beau être chrétien, j'avais quelque chose contre tous les dictateurs du monde. J'ai changé de pays. J'arrivais au Maroc, j'étais contre le dictateur du Maroc. J'allais dans tel pays, j'étais contre. Parce que j'ai été blessé par la dictature de mon pays d'origine. Nous avons quitté le pays à cause de ces gens-là. Et j'avais toujours un problème dans mon cœur. Et toujours dans la prière, toujours dans l'obéissance à Dieu, un jour, je fais une vision où j'ai prié pour un dictateur. J'étais content, j'étais libre. J'avais la vie, bien-aimé. Je pouvais voir des dictateurs et être en paix. J'avais la vie, bien-aimé. C'est ça la vie que Dieu donne, l'amour. La vie qui fait que Paul a vécu sans se marier pour servir l'Éternel. La vie qui fait que Pierre a été crucifié à l'envers, c'est la vie de Dieu. La vie qui fait que Richard Rembrandt a demandé à retourner en prison, alors que c'était une prison de souffrance totale. Parce que c'est là-bas qu'il avait la vie. Quand il est sorti, il avait tout ce qu'il voulait matériellement. Mais il sentait qu'il n'avait plus le Jésus qu'il avait en prison. Il a voulu retourner en prison pour goûter à ce Jésus-là toujours, qui est de la vie. Mais est-ce que nous tous, nous devons aller en prison pour goûter à Jésus? Non, nous devons juste nous humilier. Faire comme c'est écrit dans Colossiens 3, nous affectionner des choses d'en haut. Que l'amour devienne ton objectif de vie. La paix devienne ton objectif. La simplicité, l'humilité. Quand ça devient tes objectifs, tu n'as pas besoin d'être en prison pour recevoir la vie. Puisque tu as maintenant des objectifs du ciel, les objectifs de la nouvelle création. C'est ça, bien-aimé. Changeons nos objectifs. Bâtissons sur la parole de Dieu. Obéissons à cette parole. Et nous recevrons la vie. Jésus donne la parabole dans Matthieu 7, 24. Deux personnes qui bâtissent. Une bâtit sur le roc, sur la parole de Dieu. L'autre bâtit sur le sable, sur la logique du monde. Il va s'enrichir. Il va devenir beau. Elle va devenir belle. Elle va s'enrichir. Mais elle est en train de bâtir sur le sable. Un jour viendra la tempête. On saura qui avait bâti réellement. Vous savez, dans mon pays d'origine, il y avait une loterie qui faisait que tu donnais 1000 francs ou bien 1 000 euros. Le lundi d'après, on te donnait 2 000 euros. Bien sûr que c'est, il y avait un piège quelque part. On pouvait le flairer. On pouvait sentir qu'économiquement, c'est impossible à réaliser ça. Quelqu'un donne 1 000 euros le lundi, il reçoit 2 000 le lundi prochain. Tu donnes 5 000, tu reçois 10 000 après une semaine. Économiquement, ce n'était pas viable. Mais quand tu entends ton voisin en train de faire jouer la musique là-bas, parce que son argent a été doublé, même toi, le docteur en économie, tu es là, tu dis, ah, ce n'est pas viable, mais là, j'entends la musique. Moi aussi, je vais céder, je vends ma voiture. Tu es là, tu as fait 10, bac plus 10. Tu dis, mais c'est faux tout ça. Mais ah. Tu vois le voisin avec une nouvelle voiture. Tu dis, ah bon, moi aussi, je vais essayer. Mais les vrais chrétiens, les faux chrétiens ont essayé aussi, hein, comme toujours. Les chrétiens charnels, ils sont à peu près comme les païens. Voilà. Mais les véritables chrétiens, bien-aimés, ils ont dit, bon, nous, on va continuer à manger la semoule avec les feuilles de manioc, c'est pas grave. Avant, on mangeait comme ça, on va continuer à manger comme ça. Voilà. Laissons-les faire des fêtes. Laissons-les manger des chèvres entières par jour. Laissons-les. Bien-aimés, alors ça montait, non? Au début, tu vendais ta voiture, tu recevais le double. Après, tu te dis, mais pourquoi traîner alors que je peux vendre ma maison? Si je vends ma maison à 50 000 euros, je vais recevoir 100 000. Pourquoi aller donner 1 000? Je vends ma maison, je vais recevoir 100 000. Alors, beaucoup de gens ont vendu leur maison. Et la semaine d'après, ils attendaient les doubles. C'est là que le monsieur a fui. Les chrétiens, ils étaient habitués à manger les mêmes nourritures. Les vrais, je parle. Ils étaient habitués à manger les mêmes plats. Ils ont continué à manger les mêmes plats. Ceux qui avaient sauté pour commencer à manger des chèvres entières ou des moutons entiers, eh bien, ils n'avaient plus rien. Non seulement ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de maison parce qu'ils avaient vendu. On a cherché le monsieur, on ne l'a pas trouvé, bien-aimé. Ou même si on l'avait trouvé, mais il n'avait plus d'argent. Bien-aimé, c'est ça bâtir sur la parole de Dieu. Tu vas être stable, constant, mais toujours heureux, toujours bien. Mais celui qui bâtit sur le sable, va sauter, va crier. Mais un jour, il va pleurer. Mais toi, en plus, il y a une grande promesse pour toi. Il y a le ciel qui t'attend. Tu seras heureux à jamais. Il n'y aura plus de cris, ni de deuil, ni de souffrance. C'est ça la vraie paix que nous devons chercher. N'écoutons pas tous ces prédicateurs-là de prospérité qui disent que, comme j'ai discuté avec mon frère à propos de l'héritage, il me dit, mais dans l'Ancien Testament, on parle aussi d'héritage. Moi, j'ai dit, non. Dans l'Ancien Testament, il s'agit de Canaan. C'est un héritage terrestre pour nous. C'est Jésus, cet héritage-là. Du moment que tu arrives à Jésus, tu es dans la terre promise. Tu n'as pas besoin de revendiquer des héritages humains, bien-aimés. Laissons-les chercher les héritages humains. Nous, accrochons-nous à l'héritage céleste. Jésus, la vérité et la vie. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous aider à choisir la vie qui vient de toi, la vie surnaturelle que tu donnes aux prisonniers, la vie surnaturelle que tu donnes à l'enfant de 5 mois, la vie surnaturelle, la paix surnaturelle que tu as donnée à Lazare. Ô Seigneur, nous ne voulons pas dépendre des choses de la terre parce qu'elles finissent par nous rendre esclaves. Nous voulons être libres. Nous voulons aimer les autres. C'est ainsi que nous sommes vraiment libres, Seigneur. Nous voulons excuser les autres, pardonner. C'est ainsi que nous sommes vraiment libres. Nous voulons nous attacher aux choses du ciel. L'humilité, la paix, la joie. Ainsi, nous serons réellement libres. Nous voulons avoir la foi. Parce que la foi va nous amener à rendre ce qui est impossible, possible. Le changement de nos bien-aimés qui paraît impossible va devenir possible par la foi. Les mauvais caractères des enfants ou des conjoints qui paraît impossible à changer va devenir possible par la foi, Seigneur. Le problème de chômage, le problème financier qui paraît impossible à résoudre avec la foi qui est la vie d'en haut, ça va devenir possible. Parce que tu es celui qui a envoyé des disciples sans argent. Tu es celui qui a dit au jeune homme riche, « Vends tous tes biens et suis-moi. » Parce que tu étais conscient que ce que tu allais lui donner dépassait sa richesse. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à nous attacher à la vie qui vient du ciel. Nous voulons cette vie-là. Nous voulons chaque jour, pendant que ça va mal, ne pas chercher la solution dans les changements des autres, mais chercher la solution dans la vie que toi tu donnes, Seigneur. Trouver la solution dans la vie que toi tu donnes. Ne pas chercher la solution auprès des amis, auprès des humains, mais chercher, trouver la solution en toi. Car tu as la solution à tout. Ô Seigneur. Tu as la solution en tout. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton enseignement qui va nous aider, Seigneur, à nous attacher aux choses d'en haut, à ne pas nous accrocher aux choses de la terre qui finissent par perdre ce qui se lie à elles, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te bénissons. À toi la gloire. La louange au siècle des siècles.